Malédiction. Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être...
Bonsoir, bienvenue sur Radio B, dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 45e édition de Roman de Gare, j'ai eu le plaisir d'accueillir non pas un mais deux auteurs, l'écrivain lyonnais de naissance et ses toits de cœur Laurent Cachard, dont les derniers livres, Les Noces d'Émeraude, Radioscopie du voyage et Un monde sans murat, paru aux éditions Lendemain en décembre 2024 et le 21 septembre 2025, et Stéphane Pétrier, le chanteur, auteur, compositeur du groupe lyonnais Le Voyage de Noces, mais aussi romancier. Laurent et Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Laurent.
Oui.
Laurent, tu préfères le mot... Alors, attention, auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on te présente?
Ah bah, en l'occurrence, je suis un auteur puisque je suis romancier, mais je suis aussi dramaturge. Je suis aussi diariste, écriteur quotidienne d'un journal, un blog en l'occurrence. Donc, j'écris aussi d'autres types enfin, je travaille sur d'autres genres littéraires. Donc, je suis un auteur, oui.
Auteur, oui. Pour Stéphane, bah, on a la réponse puisque tu avais choisi romancier, puisque tu écris de la fiction. Laurent, à quand remontent tes premiers souvenirs, toi, d'écriture ?
Sans doute à ma petite adolescence, j'allais dire, puisque de toute manière, assez tôt, d'abord, j'ai figé la façon de raconter des histoires quand j'étais enfant, en train d'inventer des histoires pour moi-même, avec mon théâtre de marionnettes, et deux, dès que j'ai su écrire, j'ai eu la volonté d'arrêter le temps. Donc c'est très proustien, mais donc ça remonte à vraiment à l'enfance. Ouais.
À l'enfance puis adolescence, que lisais-tu ?
Ah bah moi j'ai un parcours de lecture très très classique, hein. Je pense que des gens de notre génération qui ont eu la chance d'avoir accès aux livres, parce que moi j'ai vu par la suite que c'est ça qui change tout, c'est-à-dire que j'ai lu l'intégralité de la bibliothèque rose, après la bibliothèque verte avec des séries, et notamment moi je me souviens de Walter Forley, je le dis sans doute mal, mais de la série des étalons noirs, et ça fait au moins 40 ou 50 bouquins quand on pense à ça, c'est-à-dire que quand on a lu toutes les séries comme ça, quand moi un jour, j'ai fait ce travail-là de mémoire en me disant, mais finalement, quand arrivé à 12 ans, à 10-12 ans par exemple, on a lu une somme assez considérable de près de 500 bouquins. Et essayer de faire le lien avec des enfants maintenant, ou des jeunes enfants ou des adolescents qui n'ont pas accès aux livres, par exemple, qui n'ont pas lu un livre de leur vie, bah, ça fait une énorme différence. Donc, je peux citer ces souvenirs d'enfance-là. Après, ouais. Je suis allé très vite dans la littérature type.
Ouais. Alors, quand es-tu véritablement lancé dans l'écriture et de livres en particulier ?
Oh ben moi en fait j'ai commencé à écrire à partir de 20 ans, mais je me suis assumé tardivement comme écrivain, parce que c'est un travail compliqué, enfin un travail personnel compliqué d'être écrivain dans la société, dans la famille, dans les choses comme ça, et j'ai eu la chance d'être édité à partir de 40 ans, mais j'ai été édité à partir de 40 ans avec un roman que j'avais écrit où j'en avais à peine 30, donc j'ai toujours écrit, mais en tant que romancier mon aventure a commencé à 40 ans.
Donc tu tiens un blog depuis 2008 et que tu qualifies de blog critique, poétique et philosophique. Mais ton premier livre est plus ancien puisqu'il date de 1999 avec La mécanique des places. Et ton premier véritable roman, TBSA 1956, date de 2008. Alors qu'est-ce qui t'a amené à tenir un blog ?
Le blog, c'est pas compliqué, c'est que TBSA 1956, comme tu viens de le dire, est sorti en 2008, par exemple, et que j'ai eu la chance, c'est un livre qui a marqué un peu les gens qui ont eu la chance de le rencontrer, qui a été sélectionné par Lettre Frontière dans les 5 romans français, enfin frontaliers, hein, donc j'ai eu une exposition par rapport à ça, et à chaque fois que j'ai fait des rencontres, puisque j'étais invité, et c'est quelque chose qui me touche littéralement, c'est-à-dire que j'ai toujours cette nécessité, j'ai ce besoin de raconter l'histoire, la petite, hein, en train de s'écrire. C'est-à-dire que quand je fais une rencontre, vous pouvez être sûr que le lendemain, j'ai fait une note de blog. Quand je vais voir un concert des Noz, la note, elle arrive le lendemain, parfois même le soir.
Plutôt la nuit.
Ouais, plutôt ouais. La nuit. Alors là, je vais travailler sur mon téléphone, mais vous pouvez être absolument sûr que cette aventure de venir jusqu'à Bourg-en-Bresse pour faire une interview à Radio B, il y aura une note de blog demain.
Ah, voilà, on va faire attention là. Donc tu as continué à écrire des nouvelles et des romans avec des titres qui n'appartiennent qu'à toi. Tu me dis, confirme si c'est juste ce que je pense. La partie de Cache-Cache, le poignet d'Alain Larouquis, la troisième jouissance du gros Robert et autres nouvelles, un girafe lymphatique, contre Brassensiste. Alors comme Stéphane, tu trouves que les titres des romans en France ne sont pas à la hauteur de celles et ceux qui écrivent?
Bon, j'ai pas de position sur la question, mais...
Stéphane, oui. Hein.
Ah ouais.
J'ai dit ça, moi.
Ouais, ouais, bah, l'année dernière.
Qu'est-ce que j'ai dit, redis-moi.
Que les titres des romans en France méritaient
ouais,
mieux,
mais
quoi.
Stéphane,
j'ai un problème avec les romans il y avait une mode à une époque de... Le machin de la tortue, les larmes du crocodile,
le
complexe du hérisson. Là, il y avait tout. Il y a un roman sur deux qui sortait. Il y avait le machin truc du.
Ah, bah là, tu dois être content parce que.
Du pangolin, là, ça m'énervait. Voilà.
La mode littéraire, ça a été de mettre des extraits, enfin, des bouts de chansons connus comme ça.
Tu penses à Michel Bussy, toi, d'accord.
Oui, voilà. Ouais. Non, mais Michel Bussy, mais c'est plutôt Plus rien ne s'oppose à la nuit ou tous ces trucs-là, quoi. Ça, c'est...
Ouais.
Mes titres,
donc toi alors, non?
Non, bah, mes titres, on peut pas faire plus neutre que la partie de Cache-Cache, par exemple. Alors, la partie de Cache-Cache, dont j'aime bien parler en présence de Stéphane, parce qu'il se trouve que c'est à peu près à cette période où j'ai retrouvé le voyage de Noz, et on s'est rendu compte que... Moi, je me suis rendu compte que mon roman, la partie de Cache-Cache, qui a eu cette chance d'être élu, j'ai eu le prix du deuxième roman à Grignan devant Carole Martinez, ça me fait toujours marrer de dire ça, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement célèbre chez Gallimard, voilà. Et j'ai eu un prix qui était assez prestigieux et sympathique, et en fait quand j'ai découvert le Bonne Espérance, l'histoire de Bonne Espérance, c'était dans l'énonciation quelque chose qui me paraissait très très proche de la partie de Cache-Cache. D'ailleurs, que dans la nouvelle que j'ai consacrée au secret, donc je me suis emparé des personnages de Stéphane, je me suis emparé de son univers à lui, en lui restituant évidemment, mais j'avais l'impression de reprendre mes personnages de la partie de Cache-Cache.
Voilà, c'était ça. Alors tu as écrit deux romans racontant la vie d'Aurélia Krait.
Aurélia Krait, ouais.
Krait. Et de ces deux familles, hein, Krait et Bolotkin, et de leur exil et leur voyage depuis l'Ukraine jusqu'à la France. Deux romans inspirés de l'univers et des chansons d'un groupe de rock lyonnais des années 80.
Enfin... Oui, alors c'est plus complexe que ça, parce que ce groupe qui était un peu, alors je parle sous couvert, mais qui était un peu avant le voyage de Noz.
Oui, ils étaient l'avant-nous. Oui.
Voilà, et puis dans un univers qui était plutôt similaire, en l'occurrence. Et je me souviens, j'avais 17 ans, et je vais les voir présenter une cassette à la FNAC. Voilà, parce que la FNAC faisait à l'époque des forums pour les groupes indépendants, comme ça. Et ils viennent avec un petit flyer, et ça racontait une histoire de l'exil d'une petite fille qui avait quitté l'Ukraine avec ses parents, voilà. Et moi, je trouvais ça absolument formidable. Et je suis assez naïf, on dirait pas à me voir, mais je suis assez naïf quand je vois les choses comme ça. Et donc, j'ai cru que cette histoire était vraie. Et quand j'ai appris, mais des années après, que cette histoire, en fait, était complètement inventée pour créer une espèce d'univers, comme ça, mais je me suis dit, un jour, il faudrait que quelqu'un raconte cette histoire véritablement, et je ne me doutais pas qu'un jour je serais écrivain, même si je l'avais emporté à moi, et surtout je ne me doutais pas de la part de travail que ça nécessitait de faire un roman qui allait reconstituer une héroïne en plein cœur de l'histoire de l'Ukraine au début du XXe siècle, vous imaginez, enfin c'est quelque chose d'assez, c'est un travail assez énormissime. Donc en fait oui, je me suis emparé d'un personnage qui existait. Un des moments les plus beaux de mon histoire, c'était pour les 30 ans du voyage de Noz. Aurélia Krait s'est reconstituée et a fait l'ouverture du concert du voyage de Noz au Totem à Rio, c'était ça, à Rio. Et en fait, il venait sur scène 30 ans après 30 ans après, il revenait sur scène. Et moi, j'ai mis 10 ans à écrire cette histoire d'Aurélia Craque. Donc, j'avais l'impression comme si on raccordait les temps. C'est quand même quelque chose, un pouvoir qu'on n'a pas en tant qu'être humain. Sauf que raccorder 30 ans comme ça, quand ils vont faire leurs 40 ans, les noces, par exemple, il va y avoir une espèce de connexion entre ce qui était les gens, ceux qu'on était il y a 40 ans et ceux qu'on est maintenant.
Alors, on parlait de ton blog, il est question de films, de littérature et de musique. De quand datent tes premières chroniques du voyage de noces d'Aurélia Craque et de Jean-Louis Murat ?
En fait, j'ouvre mon blog en 2008, au moment de la sortie de TBSA, parce que justement, je voulais raconter l'aventure des rencontres de TBSA. Et en 2009, je vais à une rencontre à la FNAC où Jean-Louis Murat venait présenter ses influences littéraires, musicales et cinématographiques. Pas de concert, pas de chant comme ça. Et il est venu et en fait, c'était absolument passionnant. Et justement, il parlait, dès 2009, il parlait du statut des musiciens, des musiciens de studio qui se suicidaient parce qu'ils n'avaient plus de travail et choses comme ça. Et j'avais pris des notes comme ça, complètement absconses sur un bout de papier qui traînait. Et en rentrant chez moi, comme j'ai une écriture de cochon, je me suis dit, si je fais pas un papier tout de suite, ça ne sortira pas. Et en fait, je fais ce papier qui s'appelle, et j'ai emprunté l'expression à Jean-Louis Murat, « Il faut sourire à Drucker ». Et je vais me coucher parce que je suis fatigué. Et le lendemain, je me rends compte, parce qu'à l'époque, maintenant j'ai arrêté, j'ai fermé les commentaires parce qu'Internet, c'est quand même un réseau assez complexe. Et je me rends compte que le lendemain, j'avais énormément de réactions par rapport à ça. Et après, que ça soit Murat, que ça soit le voyage de Noz, je me dis, je vais voir des concerts, je vais voir des gens que j'aime. Et je fais aussi Stéphane Echer, je fais Benjamin Biolay, même si j'ai un rapport un peu moins fusionnel à eux. Quoi. Et j'ai toujours envie de raconter ce qui m'est arrivé. Pas parce que ça m'est arrivé, mais parce que j'ai envie de c'est un travail d'écriture en fait. J'ai envie de travailler sur la sensation, j'ai envie de travailler sur le souvenir. Et à chaque fois que je vais voir un concert d'Eno, c'est une espèce de jeu d'ailleurs, parce que je ne peux pas, d'ailleurs même je me fais engueuler par gentiment, mais si j'ai pas sorti ma note de blog, les gens pensent que je suis malade. En fait, je fais quelque chose, il faut que je sorte comme ça. Voilà.
Quand as-tu décidé d'écrire ce livre, Les Noces d'Émeraude ?
Un été, tranquillou, l'été 2024, je suis dans le Gers, chez mon ami le maestro. Je mange du canard, je bois des mojitos, je vais à la piscine. Et comme j'avais... moi, j'écris toujours des livres intermédiaires, c'est-à-dire que j'ai des romans, un gros travail à faire, un gros travail romanesque, je m'y attelle, et de temps en temps, je fais des livres intermédiaires. Et là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit une première nouvelle. Et au début, je me suis dit, je vais écrire une nouvelle. Et puis, c'était sur le dernier concert du Voyage de Noz. Donc, ça s'appelle « Il est l'heure », qui est une très vieille chanson du Voyage de Noz, d'ailleurs, que j'ai plus, parce que c'est une maquette. Et j'écris une nouvelle sur le dernier concert des Noz. Mais c'est une fiction, parce que même au dernier moment... Alors, j'imagine... D'ailleurs, même Steph, il m'a corrigé, parce que comme je ne suis pas bon en mathématiques, je suis dyscalculique, j'avais fait des erreurs. Enfin, j'avais situé ça en 2048 ou quelque chose comme ça. Enfin, bref, des choses. Et je lui avais parlé de ça, mais il faut aussi dire que ce qui est important, c'est qu'il ne m'a jamais demandé à lire ou quoi que ce soit. Il m'a laissé la totale liberté d'écrire là-dessus. Puis après, je me suis dit, tiens, et si on faisait un entretien ? Donc, je lui ai envoyé des questions... Ah, les questions, je sais qu'il me connaît, il sait très bien que je vais lui poser des questions, je ne suis pas un passe-plat, enfin, ce n'est pas ma nature. Donc il y a eu un bon entretien. Et puis après, je me dis, mais pourquoi je ne mettrais pas mes notes de blog ? Et des notes de blog, j'en avais peut-être 25. Et alors, ce qui est amusant, c'est que je me suis dit, puisque c'est 40 ans, je vais monter jusqu'à 40. C'est-à-dire que j'ai inventé des notes de blog que j'ai même recontextualisées dans leur époque. C'est-à-dire que je faisais un travail sur mon écriture de l'époque, qui n'était pas la même que maintenant. Et puis, j'ai voulu raconter une espèce de petite, en fractionné comme ça, des petits instantanés de ce qu'était ma vie. C'est plutôt ma vie avec les noces, pas avec le groupe, c'est avec la musique, avec ce qu'ils ont imprégné chez moi. Enfin... Je sais que je suis bavard, mais je me rappelle très bien que quand j'étais amoureux et que je n'arrivais pas à le dire à 16 ans, par exemple, ou à 16 ou 17 ans, bon, les mots sont venus tardivement. Enfin, la façon de... Pour moi, maintenant, j'ai besoin de personne, mais j'avais piqué une phrase du Voyage de Noz pour mettre à la fin d'une lettre, comme ça, tellement ça me paraissait bien. Et ce qui était bien, c'est qu'un jour, j'ai écrit pour un photographe, j'ai écrit des petites confidences amoureuses qui devaient se dire en 20 secondes. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, un peu gêné, il m'a dit, je dois te dire que j'ai piqué une de tes confidences pour l'envoyer à quelqu'un et c'est devenu ma femme. Donc en fait, le truc s'est retourné, mais voilà, c'était comme ça.
Alors, lorsqu'on présente un tel livre à une maison d'édition, comment réagit-elle ? Le voyage de noces n'a pas la même notoriété qu'il mérite, ni celle d'un Jean-Louis Murat, par exemple ?
Non, mais après, je vais être tout à fait franc, hein. J'ai 57 ans, les maisons d'édition, c'est compliqué à atteindre, etc. Et moi, il se trouve que dans mon petit parcours, je rencontre des gens qui ont aussi des démarches qui sont les mêmes que les nôtres, en fait, un peu artisanal, pour utiliser le mot le plus... j'ai rencontré Jean-Renaud Cuaz, qui est l'éditeur de Lendemain à 7, c'est une toute petite maison d'édition sétoise, et on travaille, moi je fais des portraits aussi de figures de 7 comme ça, et donc il avait mis en page, parce que c'est un typographe, et il avait mis en page mes portraits. Et un jour, je lui ai demandé, puis je pensais qu'il voulait... Je pensais même qu'il allait juste me le mettre en page et puis que j'allais l'éditer à titre en auto-édition ou quelque chose comme ça, et puis le vendre gentiment aux 15 personnes que ça intéressait. Et en fait, il m'a dit, non, je le prends. Il a fait pareil pour Murat. Donc ça veut dire que c'est un éditeur qui est complètement local, mais qui prend quelques risques pour... des risques mesurés, parce que là, on n'est pas...
Et l'objet est superbe, d'ailleurs.
Oui. L'objet est beau, et puis surtout j'ai sollicité Stéphane Tabouret, le photographe, en disant, alors moi je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure quand il est à l'antenne, mais c'est Stéphane qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui est de nature assez, qui est très réservé, etc. Je l'ai brusqué gentiment, mais je l'ai brusqué. Je lui ai dit non, je ne vais pas faire un patchwork de photos. Il y a plein de photographes qui font des très belles photos du groupe, mais j'ai dit non, je veux ton travail et je veux ton nom. C'est ça l'idée, c'est que voilà, il n'y a pas une ambition. Enfin, que tu me parles de maison d'édition, c'est évident que ça ne va pas intéresser des grandes maisons d'édition. Mais le jeu de la petite édition, c'est quand même de se dire que le livre est magnifique, alors qu'il n'aurait pas été aussi beau dans des maisons d'édition peut-être plus prestigieuses. C'est ça qu'il faut le dire.
Alors, Les Noces d'Émeraude, radioscopie du voyage, est paru en décembre 2024 aux éditions Lendemain. Ce n'est ni une biographie du voyage de noces, ni un livre de fan. Comment le qualifierais-tu ?
J'ai mis un sous-titre qui, moi, me plaît beaucoup, Radioscopie du voyage, parce que, alors évidemment, l'autre jour, il y a quelqu'un qui me ramène à la vision médicale du truc, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est l'émission de Jacques Chancel, Radioscopie, c'est cette idée. Il y a un côté très sélinien aussi dans cette façon de voir les choses, c'est que moi, j'ai toujours été à distance des choses, toujours, à distance critique. C'est-à-dire que j'ai pas une réaction de fan jamais, que ce soit pour Les Noces ou pour Murat. C'est-à-dire que j'essaye d'écrire quelque chose que, par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils apportent aux gens, pour, en tout cas en l'occurrence à moi. Et j'ai voulu m'emparer de ce matériau, en fait. Voilà. Donc j'en ai fait quelque chose. C'est un ovni littéraire de toute manière, puisque ça n'a pas. Il y a des genres complètement différents. Les notes de blog, ce recueil là, c'est assez complexe parce que ça veut dire qu'il faut que enfin, j'ai pas le droit, sauf si j'en réécris parce que je m'amuse, mais sinon j'ai pas le droit de changer les notes telles que je les ai écrites à l'époque, parce que sinon c'est faussé l'exercice. Alors, je corrige les coquilles, etc., mais je change pas l'écriture. Et après, ce qui m'importe dans ce livre-là, pour moi en tant qu'écrivain, c'est de dire que je termine par 4 nouvelles, qui sont des nouvelles assez conséquentes, parce que elles font quand même une dizaine de feuillets. Ça fait plutôt 20 ou 30 feuillets quand je les écris. Donc c'est quand même assez long. Ce sont des espèces de mini-romans, et puis ce sont 4 nouvelles totalement différentes. Et c'est dire que là, pour le coup, moi, c'est l'écrivain, c'est le romancier qui fait un travail. Et j'apporte, je me sers encore une fois de la matière qui m'inspire pour faire quelque chose. Mais en même temps, je le restitue. C'est une appropriation-restitution. Sinon, ça aurait été leur piquer des choses. Ça ne m'intéresse pas.
Alors, Les Noces d'Émeraude, c'est un peu le cadeau que tu fais au voyage de noces pour leurs 40 ans de mariage. Tu aurais pu attendre le 4 décembre 2025 et le concert au Rayon à Caluire pour leur apporter.
Ouais, c'est possible. Mais en fait, c'est assez marrant que tu me parles de ça, parce que moi, j'étais persuadé, je me dis, bon, il faut, je l'ai terminé, je l'ai écrit l'été. Et puis, pour moi, la date limite, c'était plutôt décembre. l'arrivée de 2025. Bah, c'est les retards légendaires des nôtres aussi. C'est qu'ils fêtent leur année, enfin leur anniversaire le 4 décembre à la fin de l'année 2025, alors que globalement, c'est plutôt l'année 2025, l'année de vos 40 ans. Bah, après, ça n'a pas beaucoup de... Mais un des avantages de la petite édition, voire de la très petite édition, mais ça, je dis ça sans... Vraiment, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'un livre, il a une vie... Il a mille vies, en l'occurrence. C'est-à-dire que ce livre-là, il est là. Le mot cadeau que tu utilises me semble tout à fait juste. Enfin, ça fait presque prétentieux, mais j'avais envie d'apporter ma pierre à leur édifice, parce que leur édifice, il leur appartient. Mais j'ai écrit sur Jean-Louis Murat, tu l'as dit. J'ai aussi écrit un livre entre-temps sur la pianiste, la première pianiste de Barbara. Et c'est cette façon de me dire tout ce qui était de mon... Aurélia Craig, j'en parle pas, parce que ça fait deux pavés de 400 pages, et je me dis tous ces gens qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri petit à petit, finalement je leur restitue une toute petite part de ce que je peux faire. C'est pour ça que c'est ni quelque chose d'infâme, ni quelque chose de quelqu'un de trop critique qui ferait une analyse stricte. C'est juste voilà. Et puis Stéphane, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître, que j'ai la chance de connaître, et je trouve que on a cet avantage, on se connaît bien, mais on n'est pas intime, on ne connaît pas nos vies perso, puis c'est pas essentiel. L'important, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on parle de matière à création. Entre nous, c'est deux créateurs. Voilà. J'aimerais pouvoir chanter comme il le fait, pouvoir avoir sa présence scénique. Je l'ai formidablement, mais sous ma douche et avec pas de public, c'est mieux.
Avec ce livre, on est quelque part entre un magazine de rock et un essai littéraire. Ça pourrait être un hors-série genre Rock and Folk ou Rolling Stone au format papier.
Ouais, peut-être. Ouais. Plutôt un article des formats Libération, mais dans les années 80-90, quand il y avait des bons écrivains. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes de Rock and Folk qui soient des bons romanciers.
Aujourd'hui.
Ouais.
Ouais. Ah bah ça a bien changé. Époque dans Libération, hein.
Oui.
Ah, ça nous rassure, c'est général. Donc Stéphane Tabouret est un passionné du voyage de noces depuis longtemps, mais qui ne suit en images le groupe que depuis très peu. On y retrouve donc des photos récentes. C'est un regret, celui de ne pas avoir inséré des photos plus anciennes.
Oui, alors là, il faut que je sois précis, parce que soit je fais un travail d'historien du groupe, et il se trouve que Stéphane va valider, mais pour les 30 ans d'opéra, c'est Alexandre qui a fait éditer un livre avec des images.
Alexandre, le batteur du groupe, qui a regroupé plein d'éléments d'archives du groupe pour faire un livre. Ouais.
Voilà, et ce travail avait déjà été fait. Et par exemple, quand on voit les photos de Stéphane Tabouret, Stéphane, à l'époque, peut-être qu'il a changé maintenant, mais il faisait assez peu de photos de groupe. Il fait beaucoup de portraits. Et donc, il était très embêté. On a récupéré une ou deux photos, ça suffisait. Mais voilà, il n'y a pas non plus énormément de photos. Je ne voulais pas que ça soit quelque chose... Je voulais un format qui était un format roman, qui était un format livre, comme ça. Et les photos sont très belles, mais ça s'arrête sur... C'est une espèce d'instantané sur le musicien, voilà. Alors, à la fin, j'ai évidemment... Et puis, c'était presque... c'est les musiciens à l'époque des 40. Donc c'est les musiciens actuels. Forcément, je ne pouvais pas mettre des photos de tous les autres. Il y en avait deux qui me paraissaient complètement incontournables, que je ne pouvais pas... C'est pas parce qu'ils ne jouaient plus à ce moment-là qu'on ne pouvait pas ne pas les mettre. C'est Emmanuel Perrin et Éric Clapeau. Voilà, c'était ça. Mais c'est moi qui ai demandé à Stéphane ce travail-là en spécifique. Voilà.
Stéphane Pétrier, ça te fait quoi qu'un livre sur le voyage de noces sorte et qu'il soit écrit de la main de Laurent Cachard? C'est la fierté, un honneur, c'est quoi?
Ouais, c'est un vrai cadeau, pour nous c'est une vraie fierté, je crois. Ouais. Et puis, au-delà du fait que Laurent écrive très bien, j'aime bien l'idée qu'il soit aussi, dans ses nouvelles notamment, qu'il soit approprié... Approprier nos histoires, qui les ait tirées ailleurs, qui les fait vivre. Moi, j'aime bien quand je crée des personnages ou des bouts d'histoire, parce que dans des chansons, c'est forcément que des bouts d'histoire. J'aime bien lâcher ça et que chaque auditeur puisse puisse en faire ce qu'il veut. Et Laurent fait ça très très bien. Il a pris certains de mes personnages, il les a emmenés ailleurs. Mmh. Et j'adore ça.
Et qu'apprécies-tu dans l'écriture de Laurent? Elle ressemble, je trouve, un peu à la tienne et à celle de tes romans. Je me trompe ou pas?
Oh, non,
tu me trompes, hein?
Ouais, tu te trompes.
Je pense que tu te trompes, pour le coup.
Okay. Non, parce que moi, j'ai fait...
Quelque part, il peut y avoir des fois un petit peu le même délire, mais la même façon de partir un peu dans des... Je sais pas, justement, c'est comme dans tes romans.
Moi, j'ai vraiment pas de prétention d'écrivain. J'ai fait deux romans, parce que c'est un exercice qui me titillait vraiment, et je suis très content de les avoir fait. Je suis très content de ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression qu'on a une écriture vraiment différente. Et
non, mais dans l'esprit, je peux parler plutôt de l'esprit, que d'écriture.
Même dans l'esprit, il y a, moi je trouve que Laurent, il a une sorte de rigueur, un classicisme dans son écriture. Que moi j'ai l'impression d'être un petit scribouillard à côté, quoi. Voilà.
C'est dommage, on n'a pas le temps, parce que moi je rêverais d'être l'éditeur de Stéphane Pétrier, par exemple. C'est-à-dire que je lui ferais réécrire à peu près 50 fois le même truc, parce que moi je suis persuadé que, enfin, de toute manière, quoi qu'il arrive, il a un talent d'écriture qui est absolument incroyable, parce qu'on n'écrit pas une dizaine de, je sais pas quoi, d'albums comme ça. Puis surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, Bonne Espérance, c'est un roman musical, totalement. Et c'est une source d'inspiration incroyable. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a un talent fou. Sur le roman, je dis pas que... Enfin, moi, j'ai lu ses romans, j'ai fait des critiques. Je m'amuse d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, même dans le livre, je le situe, il y a la critique de ses romans, puisqu'il y a l'intégrale des notes de blog que j'ai faites. Et j'ai même restitué un petit mot qu'il avait mis sur Facebook en disant, quand j'ai envoyé mon roman à Laurent Cachard, j'avais peur d'être un Français en deuxième semaine de Roland-Garros, en disant de me prendre un revers assez sérieux. Alors, mais c'est pas ça, c'est juste... c'est une écriture totalement différente en roman. Mm-hmm. Alors qu'en fait, moi, je pense que son écriture, par exemple, dans ses romans musicaux, se rapproche de l'écriture de mes romans, qui sont des romans stricts, en fait. Voilà, c'est plus comme ça que je vois, moi.
On n'a pas parlé du Laurent Cachard, auteur de chansons. Il me semble avoir lu ça. Tu en as écrit quelques-unes ?
Ah oui, j'ai écrit beaucoup de chansons.
Pour qui les as-tu écrites et que sont-elles devenues surtout ?
Je les ai écrites pour des amis, donc c'est pas forcément, ça n'a pas eu un succès interplanétaire. La dernière en date, c'est amusant parce que c'est un guitariste, très bon guitariste d'ailleurs, qui vit du côté de Sète, qui s'appelle Nicolas Grosso, et qui a pris une de mes chansons pour son dernier album, alors qu'il a plusieurs chansons qui sont signés par Jean Fauque, qui est le parolier de Bachung, mm-hmm. et une chanson qu'il a écrite avec Didier Vampas, en l'occurrence, donc ça me fait plaisir. Et puis avec Stéphane, alors je ne sais pas, parce que tout à l'heure, on a entendu quelques bribes comme ça, et Stéphane, ça fait déjà longtemps, hein, mais en 2011, j'ai demandé à Stéphane de me prêter sa voix pour un texte que j'avais écrit sur Camille Claudel, qui s'appelle Camille, la chanson s'appelle Camille, et qui a été composée par un jeune musicien à l'époque qui s'appelle Nicolas Blondeau, et qui a fait un morceau électro, et ce morceau est magnifique, on le trouve en QR code dans l'album, voilà, mais j'ai toujours écrit, puis j'écris pour mon compositeur historique qui s'appelle Eric Ostetler, que je salue au passage.
Laurent, quel est le titre et l'histoire de ton prochain roman ou de ta prochaine nouvelle ?
Oh, c'est bien, parce que merci du piège, parce que ça veut dire que je vais être obligé de le faire. En fait, c'est pas ça, c'est que je viens de terminer mon troisième volume des figures sétoises, donc c'est un travail assez conséquent sur un an. Et là, moi j'appelle ça ranger mon bureau, c'est-à-dire que je peux faire plein de trucs, j'ai écrit plein de romans intermédiaires, enfin plein de livres intermédiaires, et là je replonge, parce que je sais que j'ai envie de le faire dans le troisième volume d'Aurélia Kreit, mais qui va s'appeler Irina Kreit et qui commencera en 2022, alors que le volume 2 se terminait en 1917, pardon. Et là, ça commence en 2022, au moment de la prise de militaire de territoire d'Ukraine par Poutine, avec un couple dont elle est ukrainienne de naissance, comme ça, historiquement, sans connaître l'Ukraine, sans rien connaître de l'Ukraine, et lui, il est russe. Et donc, cette espèce de petit débat métaphysique qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, moi, mon envie, c'est de m'emparer de sujets d'actualité avec une espèce de recul qu'on n'a franchement pas.
Stéphane, après Kill the Dog et Kill the Monkey, quel animal tueras-tu lors de ton prochain roman, s'il y en a un ?
Il se peut qu'il y ait une vache, parce que je suis de plus en plus dans la campagne et je suis de plus en plus au milieu des vaches. C'est les vaches qui m'inspirent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une vache.
C'est le nouveau Jean-Louis Murat, ouais.
Voilà, le silence de la vache qui se déplace dans le champ, quand je regarde ça devant chez moi, là, j'adore ça. Donc il devrait y avoir une vache quelque part. Ouais.
Bien. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Laurent et Stéphane, quels sont vos derniers coups de cœur littéraires ?
Oh bah moi, je viens de passer quasiment une année à relire et à lire l'intégralité de Laurent Mauvignier et à de le recevoir à 7, parce que j'ai été président du Festival du Livre et je continue de mener le grand entretien. Et dans les quelques dernières années, je vais vite, mais j'ai reçu Pascal Quignard, Pierre Jourde et j'ai eu la chance d'interviewer Laurent Mauvignier pendant une heure et demie. Donc mon dernier énorme coup littéraire, bien avant qu'il ait le prix Goncourt, c'est La Maison Vide.
Voilà. Et c'est un sacré pavé, hein. 700 pages, mais je pense que ça vaut le coup. Hein.
Deux jours de lecture.
Ah oui, bien. Stéphane, ton dernier coup de cœur littéraire ?
Hormis Un monde sans Murat de Laurent Cachard,
voilà,
que je viens de terminer. Il n'y a rien qui m'a emballé ces derniers temps. Je suis dans beaucoup de livres historiques et j'ai relu... J'ai relu Les Rois Maudits de Maurice Druon, et le truc ultime qui me remplit de bonheur. Et voilà.
Allez, côté proposition de la quinzaine, notons les thrillers de Cyril Carrère avant de sombrer le crépuscule de la Veuve Blanche aux éditions de Noël, le roman de Louise Oligny, Perdre Pays aux éditions Pélagie, le thriller de Rose Mallet et ensuite Le Silence aux éditions du Gros Caillou, le polar de Nicolas Nuten, L'Évangile des Ombres aux éditions HarperCollins Noir, le roman de Fabio Viscogliosi, un musicien aussi,
oui,
de Lyonnais à la base, Les Cambrioleurs aux éditions Actes Sud, les polars de Valerio Varesi, Ce n'est qu'un début, Commissaire Sonnerie et La Stratégie du Lézard aux éditions Point, le roman de Jérémy Wegman, Synesthésie, le thriller de Chris Bockmayer, La Maison sur la Falaise aux éditions Point, le livre de Denis Chaumier, tiens, ça va te plaire, Vers 76 aux éditions Stock.
Oh, j'adore. Hein,
bah oui, vu qu'on fête les 40 ans, les 50 ans, oh là là, les 50 ans de la superbe défaite des Verts l'année prochaine.
De mémoire, sur l'album solo de Stéphane Pétrier, il y a un morceau qui s'appelle Saint-Étienne.
Eh oui, on en a parlé. Oui, c'est pour rendre honneur.
C'est un bel acte de contrition, je pense.
Ça m'étonne. Le roman de Franco Bernini, Le Trône aux éditions Albin Michel, le polar de Jacques Maurice, un Lyonnais, L'Ocre de la Pardieu aux éditions André Audemars, le thriller de Nicolas Leclerc, un Jurassien, Le Veilleur du Lac aux éditions Point, le livre de Lumière, L'Après, une Adinoise, Ces gens-là aux éditions Payot Rivage, le roman de François Médéline, La résistance des matériaux aux éditions Point, le polar de Sandrine Détombe, Les Malveillants aux éditions XO, le roman de Paul Harding, Cet autre Éden aux éditions Buchet-Castel, le thriller de Juan Gomez Rujado, Tonio va être content, D'où tout brûle aux éditions Fleuve Noir, le roman de Melvin Mélissa, Une pieuvre au plafond aux éditions Payot et Rivage, le thriller de Philippe Gray, La maison aux neuf serrures aux éditions Sonatine, le polar historique de Jacques Forjas, Les princes de la nuit aux éditions Albin Michel, le roman d'Alexandre Murat, La prophétie du diamant aux éditions Fleuve Noir, le polar de Cécile Cabanac, La poussière des morts aux éditions Michel Lafon, le roman de Muriel Romana, L'esclave de Constantinople aux éditions Albin Michel, le thriller de Blake Crouch, Ron aux éditions Gallmeister, les Cozy Crimes de M.C. Beaton, Hamish Macbeth, Coup de crayon et Hamish Macbeth, Meurtre en cascade aux éditions Albin Michel, le roman de Giorgio Cherbanenko, Le sable ne se souvient pas aux éditions Gallmeister, le livre de Patrice Nicolino, C'est l'eau qu'on assassine aux éditions Les liens qui libèrent, le roman de Joe Wilkins, Le ciel tout entier aux éditions Gallmeister, le thriller d'Azel Ward, Qui est coupable aux éditions Tonatine, le roman d'André Carré, encore un Lyonnais, Allumi, l'ultime vendetta aux éditions André Audemars, et le polar de Momalo, L'Inuit aux éditions Point. Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Laurent Cachard et Stéphane Pétrier, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci, merci Michel.
Rappelons que les derniers livres de Laurent, Les Noces d'Émeraude, Radioscopie du Voyage et Un Monde sans Murat sont parus aux éditions au lendemain, les 1er décembre, enfin, les, oui, le mois de décembre 2024 et les 21 septembre 2025, à peu près.
Hein, oui, c'est ça, oui.
Quant à Stéphane, bah tes deux romans Kill the Dog et Kill the Monkey sont parus respectivement en 2018 et 2024.
Je n'en sais rien du jeu, j'imagine.
Bah
je
oui, te crois. T'imagines, hein, ton premier album solo, L'Homme coupé en deux, est sorti en 2024, sans oublier le dernier double album du Voyage de Noz.
Qui est sorti en 2021, je pense.
Voilà, qui s'appelle
Il semblerait que l'amour fût.
Bien, on peut se procurer tout ce matériel où
faut chercher un peu sur Internet.
Chez tous les bons disquaires et chez tous les bons libraires.
Ouais, c'est facile.
Et il en reste.
Et il faut écouter le dernier album de Stéphane Pétrier, parce qu'il y a une chanson, il me faut 30 secondes. Hein. Mais moi, je vais vous raconter une histoire qui est importante, c'est qu'il m'a fait le bonheur. J'ai eu des soucis de santé, j'étais à l'hôpital, j'étais pas debout, je n'arrivais pas à marcher. Et quand j'écoutais, je vais pas dire que c'est Dieu le Père, hein, mais j'ai écouté un morceau qu'il m'a envoyé avec son producteur Christophe Simplex. Il m'a envoyé la maquette des Beaux Restes, et je peux vous dire que j'ai écouté ça mais des centaines et centaines de fois, et ça m'a beaucoup beaucoup aidé. C'est un morceau qui est absolument magnifique, et l'album lui-même est très conceptuel et très très beau.
Merci beaucoup.
Et tu chantais Je suis Dieu en 1989.
Ouais, mais je préfère les Beaux Restes.
Moi alors, aussi.
Bien sûr. On peut suivre votre actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux et les sites Internet www.audasud.fr/lendemain, LANDEMAIN, et www.levoyagedenos.com.
Ouais.
Eh bien, Laurent et Stéphane, bonne chance pour la suite de vos aventures d'écrivain, d'auteur, compositeur.
Merci Michel.
Ouais.
Oui, et puis pour la vie, quoi, tout ça. Ouais.
Voilà, exactement. Bonne séance dédicace, bon concert, et puis à bientôt sur Radio B.
On reviendra. Merci.
Voilà. Plaisir, je compte sur vous.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.